en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Paul Clément.
Bien, je vais vous entretenir aujourd'hui de Jean-Jacques Ampère, membre de l'Académie, dont on trouve deux bustes à Chantilly et à Jacquemart-André. C'est un de ces illustres inconnus que j'ai entrepris de présenter, car qui connaît Jean-Jacques Ampère ? Eh bien oui, on sait peut-être qu'il fut l'ami des Chateaubriand, de l'abbé Aubois, de Madame Récamier, et qu'il a été un des plus assidus de cette abbaye, en compagnie de Mathieu de Montmorency, d'Alexandre de Humboldt, de la princesse Belle Jojoso, cette belle Italienne dont la pâleur frappa les contemporains et qui, exilée pour son engagement en faveur de l'indépendance italienne, de l'unité italienne, s'était installée à Paris et recevait dans un grand salon, dont Jean-Jacques Ampère. Alors, ce Jean-Jacques Ampère est le fils du scientifique, qui lui aussi fait partie de l'Académie, André Marie, le chimiste et physicien. Lui est né en 1800 et a achevé ses jours en 1864. C'est un héritier, dirait Barrès, un héritier de grand talent. Il fit ses études à Paris, qui le laissèrent libre de suivre son goût pour les lettres. Associé aux premiers efforts du romantisme, il se prit d'une vive passion pour la littérature étrangère. Et c'est en effet l'une des caractéristiques du romantisme et du romantisme dans toutes les nations, de s'ouvrir sur l'Europe et sur les langues. Alors, aussi bien les langues bretonnes, provençales, avec Fauriel, par exemple, mais aussi de donner un passé à beaucoup de nations, la Pologne, la Bohême ou d'autres, qui cherchaient des manuscrits pour fonder en légitimité cette nationalité à laquelle ils cherchaient à donner vie, âme et substance. Ce fut le 1er janvier 1820 que Ampère fut présenté par Ballanche, lyonnais, ami de Chateaubriand depuis toujours, l'âme de l'abbaye au bois, à Madame Récamier. Et il y prenait place à titre de compatriote lyonnais, car Madame Récamier l'était aussi, et un jeune poète plein d'espérance. Ses liens affectifs avec sa patrie lyonnaise se marqueront plus tard dans son amitié avec Ozanam, installé à Paris par André Marie Ampère, son père, dans la chambre de son fils. Eh bien, il vécut quelque temps avec le futur fondateur des conférences de Saint-Vincent de Paul, Ozanam, et sera orienté vers la littérature et deviendra ainsi le successeur de Fauriel, qui lui avait collecté de vieilles traditions mélodiques en Grèce et qui a contribué, tout comme Chateaubriand, à la renaissance de la culture grecque. De l'influence de Madame Récamier, comme celle de Fauvel, vraiment furent décisives pour Ampère, pour qu'on n'en marque pas avec soin l'heure et l'honneur. Lors d'un séjour à la vallée au Loup, Ampère tomba amoureux de Madame Récamier. Avouant son amour, il tomba à genoux et sanglota. Nous sommes, écrit Sainte-Beuve, en plein Pétrarque, en plein Dante, si vous aimez mieux. C'en est fait désormais du dessein de toute sa vie. Madame Récamier n'eut plus qu'à continuer de le charmer et de le calmer peu à peu, sans jamais le guérir. Avouons-le, Madame Récamier était une terrible coquette. Après avoir déçu toute la famille Montmorency, Sosthène de La Rochefoucauld, le prince Henri de Prusse, Lucien Bonaparte, Ampère donc tomba sous le charme de l'enchanteresse. Lorsque Madame Récamier paraît, c'en est fait, il est voué définitivement un célibat de vieux savants distraits, errant, content d'échouer à l'extrême fin de sa vie, chez des amis qui lui donnent l'illusion d'un foyer. Juliette porte toute la responsabilité de cette vie où restera quelque chose d'inachevé. Au début, rien à dire, elle a de sages intentions matrimoniales, pense à son devoir de tante à marier sa nièce, à cet adolescent, elle pense à Ampère. Bien élevé et courtois et du bon monde. Mais ensuite, elle le voit pantelant, il a 19 ans, et sa filleule, Amélie Civeau, est moins jeune. Alors elle se paie de casuistique, joue avec lui à la maman, à la grande sœur, se persuade qu'elle ne fait point de mal parce qu'il chérit des tourments qui lui viennent d'elle. Souffrant par Chateaubriand, elle souffre un réconfort à se faire accompagner par Ampère. Dans sa fuite en Italie en 1823, alors que Chateaubriand est ministre des Affaires étrangères, et elle le garde auprès de lui pendant un an. Chaque fois qu'Ampère cherche à s'affranchir, à s'évader, elle tire doucement sur le nœud coulant. De Rome, il veut partir pour Naples. Elle y empêche avec ce despotisme que les femmes déguisent si bien sous l'apparence de la faiblesse, dit Ampère dans ses souvenirs. S'il parvient, triomphe, à se placer dans toute une journée dans un point de vue indépendant, elle lui dit le soir « Vous ne m'aimiez pas beaucoup aujourd'hui. » Qu'il reparle de départ, elle montre de la compassion préventive. « Il vous coûterait, dit-elle, de vous séparer de moi ?» Alors il touche du doigt qu'il va souffrir. Il n'en peut plus, il avoue « Je l'ai senti, une impossibilité dont je n'ai pas idée, quelque chose d'entrelacé. » Et elle daigne se montrer touchée. Qu'il rentre enfin à Paris, qu'il essaie par diversion d'y voir Madame Pasta, la célèbre cantatrice, elle est empressée à le sermonner, par amour de la vertu évidemment. Enfin, à plus de 47 ans, elle a cette invention stupéfiante, et c'est dans le journal Les Pensées d'Ampère, « Madame Récamier me dit que nous pourrions nous marier si elle était veuve. Malheureusement, elle m'avouait avoir dit la même chose à Monsieur de Chateaubriand. » Ampère était pris donc, c'est un mondain, et en même temps un homme de lettres. Il avait connu Senancour, qui est un des premiers grands romantiques, avec Obermann, et puis il a fréquenté aussi Töpffer, le Suisse. Toute sa vie est faite d'amitié et d'amitié nombreuse, et la plus importante est celle de Chateaubriand, mais aussi de Mérimée, dandy cynique pour lequel il écrivit un article le 4 juin 1825 sur le théâtre de Clara Gazul de Mérimée. Ampère rencontra Goethe, ce que Chateaubriand n'a pas fait. Il avait 27 ans. Et je cite, « Frais, imberbe, il ne paraissait pas plus de 20 ans et Goethe apprit de lui, non sans étonnement, que tous ses collaborateurs du Globe, qui était un grand journal doctrinaire, influencé par Donou, par Guizot, par Sainte-Beuve, eh bien, on avait admiré la sagesse, la modération et le haut développement. Goethe confie à son fidèle Eckermann sa satisfaction d'avoir fait connaissance avec Ampère. Ampère, dit-il, a placé son esprit si haut qu'il est bien au-dessus de tous les préjugés nationaux, toutes les appréhensions, toutes les idées bornées de beaucoup de ses compatriotes. Par l'esprit, et c'est bien plutôt un citoyen du monde qu'un citoyen de Paris. Et c'est un élément, je crois, important, c'est ce côté cosmopolite de Ampère. « Je vois venir, ajoute Goethe, le temps où il y aura en France des hommes par milliers qui penseront comme lui. » De Weimar, Ampère se rend à Berlin et de là en Suède. Et on peut se faire une idée parfaite de ce qu'il était alors par l'agréable relation, dit Sainte-Beuve, qu'il avait donnée de ce premier voyage. « Je viens de le relire, écrit-il, après 40 ans. Je ne sais rien de plus vif, de plus léger, de plus juste dans la touche et dans le dessin. Dans ce grand mouvement de retour aux sources qu'il mène à travers l'Europe, et bien aux sources nationalitaires, Jean-Jacques Ampère tient sa place avec force et talent. Dès 1830, un cours de littérature professé à l'Athénée de Marseille, dont le sujet était la littérature du Nord, fixe sur lui l'attention et décide de sa carrière. Devenu en 1831-1832 le suppléant de Fauriel et de Villemain, dans leur cours à la Sorbonne, il obtint au Collège de France en 1833 la chaire d'histoire de la littérature française que venait de rendre vacante la mort d'Andrieux. Une partie des leçons qu'il y a faites pendant une longue série d'années ont été résumées dans une histoire littéraire de la France avant le XIIe siècle, et je m'arrêterai là parce que le titre est encore beaucoup trop long. En tout cas, elle paraît, cette œuvre, en 1839. Une sorte, dit Sainte-Beuve, de coupe architecturale dessinant de profonds et laborieux fondements. La langue de la littérature française sortait à peine de terre à la fin du troisième volume. Suit une introduction à l'histoire de la littérature française au Moyen-Âge, 1841, et en 1842, il remplace De Gérandeau à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et en 1847, il est élu à l'Académie française. Cette curiosité intellectuelle inlassable, qui embrassait les domaines entiers des lettres, il la nourrit par des voyages, je l'ai dit, multipliés, et par l'étude assidue de la plupart des langues et des littératures de l'Europe. Il a joué un rôle inappréciable dans la découverte d'une littérature qui a bien souvent fondé et encouragé, je le disais il y a quelques instants, les mouvements nationaux qui, pour le meilleur et pour le pire, vont effectivement se soulever contre les grands empires multiethniques et en particulier celui d'Autriche-Hongrie. En 1833, sous le titre « Littérature et voyage », Ampère a réuni de nombreux articles qui font dire au doyen de la faculté des lettres de Strasbourg, M. Bergmann, « En littérature, comme toute chose, il faut du saisissable, esprit ou corps. Mais que faire des spectres et des fantômes? M. Ampère ne nous donne ni des faits ni des idées, il donne des réverbérations. » Je crois que la forme est magnifique. Outre ses ouvrages, Ampère a laissé un livre sur Ballanche et des promenades en Amérique, États-Unis, Cuba, Mexique. Il est vrai que Madame Récamier était morte en 1849, ce qui avait relâché le coulant dont je parlais tout à l'heure. Mais le monument principal de sa vie littéraire est l'histoire romaine à Rome, production considérable que j'ai feuilletée et que j'avoue, je n'ai pas vraiment lu. Mais la Vallée aux Loups en conserve en tout cas les quatre volumes. Production considérable dont les chapitres ont été publiés d'après un premier jet dans la revue des Deux Mondes et qui forme quatre volumes publiés en 1858 et les deux autres après sa mort. Dans cet ouvrage, l'auteur nous fait revivre le développement de l'histoire romaine, nous la rend en quelque sorte présente et vivante en mettant sous nos yeux les lieux où elle s'était accomplie et les monuments qu'elle a traduits. Ampère n'était pas très éloquent. Et un contemporain écrit, on a même vu rarement une pareille disproportion entre le brillant causeur de salon, qui n'était jamais plus à l'aise que le dos tourné à la cheminée, et le professeur traitant les mêmes sujets devant son auditoire. Dès qu'il commençait une leçon, je ne sais quel scrupule le prenait à la gorge, il était tout occupé d'atteindre une mesure, une exactitude, qui appartient seule plutôt à l'écrivain qu'à l'homme de l'enseignement oral, il n'y avait plus rien de son charmant abandon et de ses saillies, ou si ses saillies venaient, c'était à l'état froid, à l'état de notes préparées. Jusque-là, dit Sainte-Beuve, ce n'était que de vives échappées, d'un savant professeur en vacances, échappées extrêmement agréables d'ailleurs, et qui ont laissé leurs traces. En 1844-45, Ampère quitte le Collège de France pour l'Égypte. C'est un voyage important sur tous les lieux consacrés de ce pays, mais il passe aussi par la Grèce, une course en Asie mineure, et il y met une ardeur qui précède celle de Flaubert et de Maxime Ducamp. Il ne tenait qu'à Ampère de poursuivre encore ce travail si bien engagé parce qu'il vraiment, il devient archéologue. C'est un homme polymorphe, si je puis dire. C'est-à-dire que tout l'intéresse, la poésie, l'architecture, l'archéologie, l'anthropologie, tout est véritablement sujet à sa curiosité érudite. La révolution de février 1848 apporte une secousse dans ses habitudes scientifiques, car dans son universalité des goûts, il faisait entrer aussi, pour quelque chose, l'enthousiasme politique. Qui était-il ? La révolution de 1848 le trouve plutôt de son côté, il faut bien le dire. Et il trouva moyen d'avoir de l'enthousiasme à ce moment-là. Il participa à ce printemps des nations que semblait annoncer la révolution de 1848. Ampère n'est pas sensible au catholicisme mystique, quelque peu ésotérique, de ses amis, Saint-Martin par exemple, et jusqu'à ses dernières années, il ne peut même être compté comme, s'il peut être compté comme croyant, c'est tout juste, tout juste. Il n'a point non plus le légitimisme sentimental de ses compatriotes, et notamment de Chateaubriand. Libéral avant tout, libre de tout ce qu'il a envie de connaître et de chercher. Son hostilité pour le régime de Juillet provoque un enthousiasme sentimental pour la démocratie dont l'expression lui vaut une algarade inattendue de Tocqueville. Mais Tocqueville est véritablement la dernière amitié passionnée, dit Sainte-Beuve, passionnée que Ampère va vouer à Tocqueville. Madame Récamier meurt le 11 mai 1849, un an après Chateaubriand, et c'est alors qu'il va contracter avec Alexis Tocqueville cette amitié profonde dont il était susceptible et dont la nature ressentait le besoin, dit Sainte-Beuve, qui réveilla son appétit intellectuel. C'est un peu le Montaigne et la Boétie. Et la correspondance qui a été publiée d'Ampère et de Tocqueville de 1839 à 1859, donc 20 ans, est remplie de témoignages et de confidences. Tocqueville consulte Ampère sur ses lectures, sur ses écrits, sur ses derniers volumes de la démocratie en Amérique. Et l'ami consulté ne manque pas de trouver, contrairement au jugement public, ses deux derniers volumes encore supérieurs au premier. En retour, Tocqueville trouvait très beau, et là je crois que c'est une flatterie, les vers d'Ampère qu'il lui adressait. Il lui parlait de son César, de ce drame en vers, et il lui écrivait « J'ai grande impatience de recevoir César, embelli encore !» Une vraie critique eût dit « Laissez ce César, c'est une erreur. » Ampère écrit même une épître à M. Tocqueville. « Cher Tocqueville, à vous dont le choix m'a permis de vous placer au rang de mes meilleurs amis, à vous penseurs profonds, nobles, esprits sages, mes vers, loisirs errants d'un rêveur en voyage. » Cette amitié avait beaucoup de charme. Il y avait au château Tocqueville une chambre attitrée pour Ampère, loin du bruit, une étude isolée qui lui était destinée. Le domestique continuait de dire « la chambre de M. Ampère », mais lorsqu'à la fin il était infidèle et qu'il ne venait plus, eh bien Ampère continuait à correspondre. Et cette correspondance a été publiée dans le tome 11 des œuvres complètes de Tocqueville, dans l'édition Gallimard. J'ai retenu une page qui me semble particulièrement intéressante. La dictature de Louis-Napoléon pèse sur la France lors du retour d'Ampère d'Amérique. Le pari des intellectuels, des hommes politiques, des salons, se divise en deux camps animés, une solide haine réciproque. Les ralliés au nouveau régime et les libéraux irréductibles, ce qui est le cas d'Ampère. Lui-même, qui a pris avec indignation le coup d'État, prend place sans hésitation dans ses rangs. Son ami Sainte-Beuve, avec qui il s'est brouillé, fait allusion à la virulence de ses sentiments anti-napoléoniens. Désormais, ce sont les salons les plus hostiles à l'Empire que fréquentera ce célibataire mondain. Un pénitent, celui des Broglie, refuge de l'orléanisme aristocratique, celui des Molles, que la maîtresse de maison anime d'un certain état d'esprit républicain. Il faut toute la souplesse de Mérimée pour ne pas rompre les ponts avec son vieil ami, être à la fois un sénateur reçu à la cour et un hôte des Molles, et même avoir des relations concordiales avec Tocqueville. D'une humeur mélancolique et inquiète, de santé fragile, délicate, ne pouvant goûter les plaisirs du bon Ampère, le bon Ampère disponible est tout de même d'humeur gaie et égale. Madame de Tocqueville retrouvait avec lui les joies d'une maîtresse de maison dont son mari, enfermé dans ses pensées, la privait souvent. Ampère, qui ne souffrait pas d'estomac, aimait les plats savoureux et les bons cigares. Il pouvait, en célibataire frileux et un peu maniaque, prendre intérêt à l'aménagement de sa chambre. Il aimait aussi jouer au billard et converser avec elle en langue allemande. Il aimait aussi jouer et travailler, en particulier à la langue allemande, qui est dans cette petite chambre, qui était une sorte de petite cellule monacale. Il retournait avec beaucoup de bonne humeur à ses travaux lorsque ceux-ci le plongeaient dans l'étude de l'ancienne France. Chaque jour, on se réunissait au salon pour faire des lectures en présence de Madame de Tocqueville. C'était un véritable encouragement pour Tocqueville lui-même, toujours troublé de la valeur de son texte, que de le soumettre à un juge qui le comprenait si bien, un peu comme Chateaubriand l'habille au bois avec Sainte-Beuve. À son tour, Ampère rapportait les fruits divers de son talent, un fragment consacré aux empereurs romains, un récit du voyage en Amérique, une étude sur la philosophie de son père, des fragments de comédie ou de roman. On peut imaginer le dialogue de ces deux hommes qui passaient tous les deux dans le Paris lettré pour les mettre dans l'art alors si subtil de la conversation. Et j'ai annoncé un texte, je vais le lire, il est du 12 novembre 1851. Depuis que vous m'avez écrit Ampère, il s'est passé un événement qui change peut-être quelque chose à l'incertitude déplorable dont vous me parlez. C'est l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence. Je suis très peu au fait de la situation, étant si loin et ne lisant point de journaux français qui sont si rares ici. À la Reading Room, qui était un club très sélect à Londres, bien monté en revue anglaise, en journal américain, on n'en reçoit que la presse une fois par mois. En revanche, je cause avec des hommes distingués et bien informés du moins dans tous les genres. Chaque jour, j'apprends quelque chose. Et moi aussi, j'aurais bien du plaisir à m'entretenir de tout cela avec vous, à parler de ce qui a changé. Rien au fond, je crois. Empire de la majorité, énergie des efforts individuels, puissance de l'association pour faire ce qu'il y a de meilleur de fait, se fait par le gouvernement, tout cela subsiste sur les points essentiels. Chaque objet que je vois, chaque incident de ma journée est un commentaire et une démonstration de votre ouvrage, c'est la démocratie en Amérique. Les changements sérieux survenus depuis tiennent surtout au chemin de fer qui s'étendent chaque jour et qui ont tant influé sur le développement de l'Est, de l'Ouest et dans la partie septentrionale de l'Union américaine. Ce qui me paraît un changement profond qui tente à transformer la politique fondamentale des États-Unis, c'est une disposition à se mêler des affaires de l'Europe qui commence à prévaloir. L'enthousiasme pour M. Kossuth, Kossuth avait incarné justement dans ce sillage des mouvements nationalitaires, à détacher la Hongrie de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et de l'importance, il y a de l'importance comme démonstration de cette nouvelle tendance si contraire à la direction ancienne. Il y a ce sujet beaucoup d'exagération dans les journaux qui rêvent d'une croisade anti-absolutiste et parlent de bombarder Saint-Pétersbourg. Mais il y a quelque chose de réel. Et M. Svedjvik, je ne saurais pas qui vous dire ce qu'il était, pense que ce nouveau principe de politique du pays ne saurait être non avenu. C'est une suite de la disposition qui a commencé avec la guerre du Mexique, c'est entre 1846-48, mais cela augmente chaque jour et prend un caractère tout particulier. J'incline à ne pas être votre avis sur l'avenir religieux des États-Unis. Je ne vois pas jusqu'ici cette propension à la philosophie et au catholicisme, mais c'est une question que je n'ai pas encore étudiée. Adieu, mon cher ami, mille hommages, etc. Et je terminerai en disant que la correspondance quotidienne entre Tocqueville et Ampère s'est poursuivie. Ampère a rejoint en 1956 Tocqueville à Tocqueville, en Normandie, à la fin de juillet. En septembre, il se rend à Rome. Il a pu rendre à Tocqueville le service de relire les épreuves de l'Ancien Régime et de la Révolution, comme il avait fait pour la démocratie en Amérique. C'est Beaumont qui se chargea à la place de cette besogne. Cependant, son enthousiasme pour l'ouvrage lui inspire un article publié en Italie. Son affection pour Tocqueville est plus vive que jamais et il lui écrit le 31 juillet 1856 « Votre amitié est tout ce qu'il y a de meilleur dans ma vie ». Il souhaite le rejoindre, il se hâte, mais les circonstances contrarient ses désirs. Ampère, de retour à Paris, se voit désigné, puisqu'il est membre de l'Académie, par le sort pour être juré, en sorte que, non pas parce qu'il était de l'Académie, mais en même temps, on l'a désigné comme juré. Il ne peut se retirer et il ne verra pas les derniers jours de Tocqueville, qui fut avec Ballanche et Chateaubriand un de ses grands amis. En dépit de sa crainte de l'hiver et du froid, eh bien, il se rend à Tocqueville et là, eh bien, il apprend la mort de son grand ami. J'ai peine à concevoir comment 2 mois passés dans un lieu où l'on ne voit personne sous un ciel sombre, au milieu d'un terrain détrempé dans lequel on saurait se promener sans se crotter jusqu'à l'échine, et entre 2 personnes qui se sont occupées de leurs affaires du matin au soir, j'ai peine à croire comment, avec cette qualité d'oiseau, une pareille vie pourrait lui plaire autant qu'il le disait. Je pourrais évoquer beaucoup d'autres souvenirs de Jean-Jacques Ampère qui éclairent une partie de l'histoire du XIXe siècle. Homme fin, subtil, sensible, curieux, que l'Académie fit sien non sans raison, il fut une sorte d'abeille, butinant de ci, de là, et rapportant des réflexions précieuses, des enseignements dont il donnait lecture à ses confrères. Cette catégorie d'hommes, rare, très rare, a tendance aujourd'hui à se perdre. Ampère, en tout cas, fut de cela.